franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic. Bruno, bonjour.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le temps des adieux. Après l'élimination de Nicolas Sarkozy, le renoncement de François Hollande, il ne brigue pas de nouveau mandat. C'était hier soir à 20h08. La campagne électorale est chamboulée par cette décision inédite et même historique. Manuel Valls, probable candidat, peut-il rester Premier ministre? Aurélien Collier est à ses côtés à Nancy. La décision de François Hollande, jusqu'au dernier moment, presque personne n'en était au courant. Les deux derniers chefs de l'État sont donc hors course, lentement mais sûrement. La vie politique se renouvelle. On mesure en particulier l'impact des primaires. Le renoncement, c'est maintenant. Ce sera l'essentiel de ce journal sur France Inter et franceinter.fr. Les dernières informations, l'état de la gauche avec Cyril Graziani et deux invités, le proche conseiller et ami du président Bernard Poignant. Et pour un regard à la fois précis et distancié sur notre curieuse vie politique, le journaliste italien Stefano Montefiori. Car le renoncement de François Hollande intervient à la veille d'un week-end qui pourrait bien bouleverser la politique européenne. L'extrême droite aux portes de la présidence en Autriche et le Premier ministre italien Matteo Renzi qui joue son poste sur un référendum. Dans cette édition encore, nous irons à Marseille au lendemain de la mort d'un lycéen poignardé devant son établissement. Une querelle infiniment stupide. Un numéro 3637, le Téléthon commence ce soir. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno.
Nuages au nord, soleil au sud, c'est le programme.
Oui, c'est assez classique. Nous avons une perturbation qui s'enfonce sur le pays par le nord. Le ciel sera donc bien gris au nord de la Loire et sur le nord-est. Cette perturbation est très peu active mais apportera quelques bruines près des frontières du nord. Des côtes vendéennes et aquitaines jusqu'au Jura, aux Alpes et aux régions méditerranéennes. Le temps sera beaucoup plus agréable avec un beau soleil cet après-midi. Sur l'ouest Bretagne et entre le Lyonnais, le Berry et les plaines de Franche-Comté, le temps sera plus variable. La grisaille est en train de laisser place aux éclaircies, mais elle peut localement rester tenace cet après-midi.
Et les températures restent fraîches. Merci Sébastien Léas. Météo France à la fin de cette édition. Les 30 ans du musée d'Orsay qui sont fêtés ce week-end.
France Inter.
Et dans ce journal, nous allons donc tirer les conséquences de cette toute petite phrase prononcée hier à 20h08.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
C'est la première fois sous la Ve République depuis plus de 50 ans donc qu'un président renonce à briguer un second mandat alors que rien ne l'en empêche, en tout cas ni la maladie ni les règles de droit. À 6 mois de la fin de son quinquennat, le président qui se voulait normal accomplit donc un geste qui ne l'est pas du tout pour un homme politique, renoncer au pouvoir. Peut-être parce qu'il était anormalement impopulaire. Nous entendrons dans un instant un autre extrait de cette déclaration plus long où il explique pourquoi il renonce. D'abord, parole de fidèle ou pas du président au lendemain de cette déclaration, reportage de Jules Dequis à Tulle, Corrèze.
Aux terrasses des cafés, à la boulangerie, devant l'église, la une du journal local, un François Hollande, la tête basse, avec ce titre, il renonce, est le sujet de toutes les conversations.
Moi je pense qu'il a bien fait, il est parti dignement, et moi je trouve qu'il a bien fait, il a été courageux de faire ça, voilà.
Ici, beaucoup ont suivi François Hollande pas à pas dans sa vie politique, de ses débuts comme député de Corrèze en 1988, à son mandat de maire de Tulle dans les années 2000, et même si sa vie parisienne au Parti Socialiste l'a beaucoup absorbé, il revenait souvent dans son fief.
Il le voir, il était très sympathique et tout. Il serrait la main à tout le monde, il embrassait beaucoup les femmes. Enfin, les femmes les mêmes, attention. Hein.
Charme qui n'opère pas auprès de toutes. Ici, on n'oublie pas que François Hollande est né en Normandie.
Il dit qu'il est de Tulle, il n'a jamais habité à Tulle. Il était projeté à Tulle. C'est pas un Corrézien, hein.
Il est arrivé à Tulle, même après moi.
C'est un parachuté, hein. Ils n'ont pas voulu ailleurs, ils sont venus ici.
Certains font preuve de plus de mansuétude. Jacques Chirac, François Hollande, des Corréziens, de sang ou de cœur, à l'Élysée. Cela faisait la fierté de Tulle et de Claude.
On l'a adopté parce qu'il a fait beaucoup pour la Corrèze et beaucoup pour Tulle notamment. C'est là mon grand regret, c'est que ça va se terminer.
À Tulle, Gilles Gallinaro, Jules Dequis, France Inter.
Et François Hollande est déjà loin de l'Élysée symboliquement. Il a pris ce matin la direction d'Abu Dhabi où se tient une conférence sur le patrimoine culturel menacé par les terroristes, particulièrement au Proche-Orient. Le terrorisme qui aura été comme une ombre portée, une marque de sang sur le quinquennat Hollande. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour Bruno.
Retour sur cette décision annoncée hier. Pourquoi et comment le président de la République a-t-il décidé de renoncer?
Il semble y avoir deux raisons. Les Hollandais et le premier d'entre eux, François Hollande, ont dû se rendre à l'évidence la semaine dernière. Ils ont tout tenté pour enjamber, annuler la fameuse primaire de la gauche. Mais ils ont vite constaté qu'un tel coup de force aurait conduit à une explosion du Parti Socialiste. Alors oui, François Hollande, obligé de passer par cette case primaire, risquait vraiment une humiliation. Ça a joué certainement dans sa décision. La stratégie d'empêchement élaborée de son côté par Manuel Valls a elle aussi contribué à ce choix. Manuel Valls a mis la pression incessante sur François Hollande, poussant de tout son poids pour convaincre le chef de l'État qui qu'il était trop impopulaire pour se représenter. Paris réussit lundi à la sortie de leur déjeuner à l'Elysée lorsque Manuel Valls a baissé de ton. Beaucoup ont pensé que le Premier ministre avait avalé son chapeau. Il avait, semble-t-il, compris dès lundi que le chef de l'État pouvait vraiment ne pas se représenter. Il a changé de braquet et a juste attendu son heure.
Ah, Cyril, on vous retrouve dans quelques instants justement pour parler de l'état de la gauche. D'abord, le premier invité de ce journal, Bernard Poignant, ancien maire socialiste de Quimper, conseiller, proche ami du président. Bonjour Monsieur Poignant.
Bonjour, à vous, vous et vos auditeurs.
Vous l'avez vu, vous lui avez parlé à François Hollande depuis hier soir?
Je l'ai vu hier soir après une dizaine de minutes dans son bureau avec Jean-Pierre Jouyet et Vincent Feltès après son intervention. J'ai trouvé un homme plein d'émotions, évidemment, puisque c'est quand même pas rien la décision qu'il a prise. En même temps, avec un soulagement de l'avoir annoncé aux Français, qui est quand même l'essentiel, et une sorte de sérénité pour continuer et terminer ce mandat de 5 mois avant, au-delà, d'avoir la vie qu'il souhaite. Donc j'ai trouvé ce mélange qui est dans le palais pour ses conseillers et ses amis qui ne connaissaient pas sa décision. Moi, je l'ignorais totalement. Il y avait...
Quelque chose quand même du personnage. Manifestement, les proches qui parlent depuis hier soir et vous encore aujourd'hui sur France Inter, vous dites tous ou quasiment tous, on ne savait pas. C'était vraiment un secret très Exactement. Très bien gardé.
C'est un secret très bien gardé. Alors, ce que je pense, mais je ne connais pas d'ailleurs le processus qui a amené à sa décision, ce que je pense, c'est qu'il a mûri cette décision assez seul, peut-être avec quand même sa famille, ce qui paraît normal. Il a mûri cette décision en écoutant des quantités d'amis, de conseillers, qui lui écrivaient ou qui lui parlaient, avec cette lucidité dont il a parlé à la télévision hier soir, où il mesurait la relation distendue avec les Français, non pas rompue, je crois pas, mais distendue, où il a mesuré qu'il n'était pas l'homme qui réunissait la gauche pour affronter cette élection. On le lui disait, et notamment au sein du Parti Socialiste, par certains membres, sans arrêt. Or, lui, un de ses soucis, je le sais ça, et depuis des longs mois, pas d'aujourd'hui, c'est que la gauche, dite réformiste ou social-démocrate, trouvez-lui le nom que vous voulez, soit présente au second tour de l'élection présidentielle pour affronter soit la droite radicalisée de Fillon, soit la droite extrémisée de Le Pen.
Et il avait compris que lui, ce serait très compliqué.
Il a compris que pour lui, ce moment-là était difficile. Sont venus se greffer sur tout ça les primaires, organisées par le Parti Socialiste, avec la pression pour qu'il y rentre. Mais et ne pas y rentrer, ça devenait déflagratoire. Y aller en tant que président, ça risquait d'être éliminatoire.
Monsieur Poignant, maintenant, Manuel Valls va y aller ?
Ah ben ça, écoutez, c'est lui qui va dire.
Moi, vous le souhaitez ?
Je ne peux pas parler à sa place. Ah, ça, c'est lui qui va dire. Je ne souhaite rien. Je vais voir quels sont les candidats qui vont avoir les parrainages pour se présenter aux primaires. Et là, c'est une autre histoire.
Question de Cyril Graziani, Monsieur Poignant.
Selon vous, que peut faire François Hollande à l'issue de ce quinquennat ?
Alors, d'abord, il va le terminer. Je pense que la question va se poser pour lui de voir comment le fonctionnement de l'Élysée s'opère. Je sais qu'il a une formule qu'il dit toujours, nous sommes ici pour nous occuper des affaires de l'État et de l'intérêt national. Donc ça va continuer. Je sais aussi que son attention sera, elle est toujours, depuis longtemps, mais elle sera constante sur la sécurité des Français. Je sais que tous les jours, le président, le premier ministre et quelques ministres dits régaliens sont informés des risques qui peuvent peser sur les Français, des risques d'attentats. C'est une obsession. En tout cas, c'est une vigilance de tous les instants. Je pense que déjà ça va beaucoup occuper, comme ça l'occupe déjà aujourd'hui, beaucoup dans son activité quotidienne. Et la vie va continuer. Le Parlement s'arrête, faut pas l'oublier, le 24 février.
Oui.
Et donc,
autrement dit, gestion des affaires courantes dans un contexte de terrorisme, qui est quand même particulier.
Les affaires dites courantes, parfois, deviennent des affaires graves.
Et Cyril Graziani, vous posez la question de l'après, vous qui le connaissez très bien.
L'après-président.
Ouais.
Alors là, vous avez la maladie du journaliste normal, c'est-à-dire que vous êtes impatient et trop pressé. Je vous suggère d'attendre et qu'on va voir comment ça se passe. Je vous taquine en le disant.
Vous avez raison. Merci Bernard Poignant.
Allez.
Et bon retour à Quimper alors pour l'instant.
Aussi, au revoir.
Bernard Poignant, entretien enregistré en fin de matinée. Notons qu'un autre proche et conseiller de François Hollande, proche de François Hollande, Jean-Pierre Mignard, s'est prononcé ce matin en faveur d'Emmanuel Macron. Cyril Graziani, avec vous dans un instant, petit tour de la gauche au lendemain de l'annonce du président de la République. La gauche, justement, il en a parlé pour justifier sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat.
Comme socialiste, parce que c'est l'engagement de toute ma vie, je ne peux accepter, je ne peux me résoudre même à la dispersion de la gauche, à son éclatement, parce qu'elle priverait de tout espoir de l'emporter face au conservatisme et pire encore, face à l'extrémisme. Pour ma part, je ne suis animé que par l'intérêt supérieur du pays. Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle.
Alors Cyril Graziani, on vous retrouve la gauche au cœur du message de François Hollande pour expliquer pourquoi il renonce. Dans quel état est-elle cette gauche-là à 13h11? D'abord, pour Manuel Valls, ce qu'on peut dire, même si la campagne sera sûrement pleine de surprises, c'est que la voie se libère pour le Premier ministre.
La fusée Valls est lancée. Candidature et démission du gouvernement prochainement attendue. Un ministre mis dans la confidence table sur lundi. Pour une raison évidente déjà, François Hollande, eh bien, il a quitté la France ce matin, direction Abu Dhabi pour un sommet aux Émirats. Il ne reviendra que demain soir. Mmh. Le Premier ministre, lui, dans le même temps, a prévu de s'exprimer au meeting de la Belle Alliance Populaire à Paris. Les valsistes espèrent pouvoir faire la claque. Ils organisent déjà la venue de bus d'Île-de-France.
Ça, c'est demain.
Ça, ce sera demain. Oui. Début de l'opération Conquête pour Manuel Valls, qui s'est efforcé d'arrondir les angles pour peaufiner au fil des années son profil de présidentiable. Mais n'oublions jamais la faiblesse de son score à la primaire de 2011, 5%. S'il a montré sa force de persuasion vis-à-vis de François Hollande, il en faudra autant, voire beaucoup, beaucoup plus pour convaincre les militants et les électeurs de gauche qu'il est le candidat capable de rassembler la gauche en 2017.
Et pour l'instant, Manuel Valls, il est à Nancy aujourd'hui, comité interministériel sur le handicap. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Avec Éric Damadio, vous êtes aux côtés du Premier ministre qui n'est vraiment, vraiment pas seul aujourd'hui.
Oui, entouré d'une meute de journalistes qui se sont accrédités hier soir dès qu'on a appris le retrait de François Hollande. Entouré aussi d'une bonne partie de son gouvernement, Marisol Touraine pour la santé, Jean-Michel Bailey pour les collectivités territoriales, Myriam El Khomri pour le travail ou encore Emmanuel Cos pour l'écologie. Alors le ciel est gris et bas aujourd'hui ici en Lorraine. L'ambiance est un peu pesante, mais le Premier ministre, lui, il est plutôt détendu mais dans la retenue. Pas un mot à la presse de Manuel Valls qui prononce en ce moment même, une allocation au conseil départemental après une visite ce matin dans un centre pour handicapés. Un peu comme si cette journée était consacrée au deuil politique de François Hollande. Comme si le Premier ministre avait décidé de respecter une espèce de délai de décence. Alors a priori, il ne devrait rien annoncer aujourd'hui. Le cadre n'est pas bon, le moment non plus. Peut-être demain, Cyril Graziani le disait, lors du congrès de la Belle Alliance Populaire. Ce qui est sûr, évidemment, c'est qu'il ira. Manuel Valls l'a déjà dit, même contre François Hollande. Ça, c'était la semaine dernière dans le JDD. Ultime coup de pression d'une stratégie de l'empêchement qui a fonctionné et qui a amené donc François Hollande a renoncé, lâché par tous, même son Premier ministre Manuel Valls, qui a le sourire, mais qui va devoir maintenant assumer le bilan Hollande et qui va devoir aussi rassembler ses gauches, dont il a dit lui-même qu'elles étaient irréconciliables.
Assumer le bilan Hollande, il dit même qu'il le défendra ce matin, Manuel Valls. Voilà pour le président de la République, voilà pour le Premier ministre Cyril Graziani, le reste de la gauche, dans quel état se porte la gauche là maintenant?
Alors ça va devenir très très intéressant, mais pour autant, le renoncement de François Hollande ne règle rien sur la ligne de départ. Pour ne citer que les favoris à la primaire, il y a un Montebourg, Valls, qui avait intrigué en 2014 pour faire nommer le dernier nommé à Matignon. Mmh. Cette fois, ce sera chacun pour soi. Et puis, il y a les pointures dont on attend évidemment le choix. Martine Aubry, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, qui ne sont pas réputées pour être des supportrices de Manuel Valls. Enfin, il y a François Hollande, on ne va pas l'enterrer trop vite et l'oublier tout de suite. Il va pouvoir s'adonner tranquillement à son sport préféré, commenter la vie politique, voire peut-être tenter de l'influencer en coulisses.
Parmi les réactions de la matinée, on notera celle de Marine Le Pen. Après la victoire de François Fillon, la probable candidature de Manuel Valls, je vais avoir les doublures contre moi, dit la fille de Jean-Marie Le Pen, mais bien souvent elles ont les défauts des premiers rôles. Cela dit, c'est vrai que ce n'est pas seulement une page d'histoire politique de 5 ans que nous nous apprêtons à tourner, mais de 10 ans, Hollande sur le départ et Sarkozy parti. Au-delà du lien entre les deux événements, ce sont aussi les primaires qui changent la donne. Écoutez le politologue Frédéric Savicky, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le fait que Nicolas Sarkozy ait été éliminé dès le premier tour de la primaire de droite et du centre a sans doute aussi conduit François Hollande à réfléchir au risque qu'il avait évidemment de payer, comme Nicolas Sarkozy, le fait qu'il était un homme du passé et que son sort était étroitement lié à celui de Nicolas Sarkozy. Je dirais que ce qui est important sur ces deux cycles, c'est que c'est le moment où le quinquennat vraiment est rentré, on peut dire, dans les mœurs des institutions. Les présidents successifs Sarkozy et Hollande ont finalement dû gérer le fait qu'ils apparaissaient désormais comme les chefs de la majorité. Ce qui est intervenu aussi, c'est la mise en place des primaires. Et évidemment, les présidents, maintenant, vont devoir à la fois assumer la responsabilité des actes et de la politique qui a été menée, et en plus, devoir passer par une case supplémentaire pour pouvoir se présenter, c'est la primaire. Et ça fait évidemment beaucoup d'obstacles. Et donc, je pense que cette innovation, le fait que le président ne se représente pas, risque de se reproduire peut-être plus souvent qu'on ne pense dans l'avenir.
Et nous a rejoint en studio Frédéric Mettezeau, chef du service politique de France Inter. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Alors le bilan du quinquennat Hollande, il va se dessiner au fil des jours et des semaines désormais. La déclaration d'hier soir, c'était une image très forte, ça nous a donné envie de revisiter quelques images de ce quinquennat avec vous Frédéric. Quinquennat bien souvent marqué par les couacs.
Gouverner, c'est pleuvoir. La boutade de François Hollande lors d'une visite pluvieuse au Maroc en 2013 résume la météo au sens propre du quinquennat, devenu politiquement maussade au fil des mois. Des trompes d'eau sur les Champs-Élysées le jour de son investiture, la foudre sur son avion pour son premier voyage à Berlin, un président détrempé sur l'île de Sein le jour de l'éviction d'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon en août 2014. Alors François Hollande, bien sûr, n'est pas responsable du climat, mais ses images sans filtre ont jalonné son quinquennat et saturé les chaînes d'information continue ou les réseaux sociaux. Hollande en chapka et pelisse au Kazakhstan, Hollande prise à partie par Leonarda et sa famille, Hollande casque sur la tête en une d'un magazine People. Cet enfant de la télé qui aimait tant converser avec les journalistes a été dépassé. Le problème de François, soupire l'un de ses vieux amis, c'est qu'il est persuadé d'être son meilleur communicant. Aux images se sont ajoutés les mots et ses innombrables entretiens avec des journalistes, ensuite retranscrits dans des livres, provoquant colère, incrédulité ou déception des ministres, parlementaires et élus locaux socialistes. Eux qui avaient parfois du mal à saisir la pensée et les dessins hollandais ont découvert que le chef de l'État était le taiseux le plus bavard de France.
Bonjour Stefano Montefiori. Vous êtes journaliste italien correspondant à Paris du quotidien milanais Il Corriere della Sera. Après ce qu'on vient d'entendre, vous, quel regard déjà vous portez sur ce quinquennat Hollande?
C'est un regard qui a été signé un peu par les affaires, les couacs qu'on vient de rappeler. Malheureusement, on pense que le président Hollande a bien sûr fait des choses. Son bilan n'est forcément aussi désastreux que ça.
Oui.
Mais après, les gens se rappellent ces problèmes, ces affaires, le scooter, les croissants de sa garde-corps amené à son amante. Et, malheureusement, il y a un côté communication qui peut-être n'a pas marché. Et c'est un peu ça qui est dans la modernité, disons, c'est ça qui est le plus important. Et donc, c'est à cause de ça aussi que l'image de Hollande, même à l'étranger, n'est pas si bonne que ça. Par exemple, l'affaire du livre, du dernier livre.
Oui, un président ne devrait pas dire ça.
Voilà, du monde. Ça révèle quand même une. Je ne veux pas trop psychologiser, mais de toute façon, comme si le président n'assumait pas forcément jusqu'au bout sa mission, sa charge de président.
Oui.
Il s'abandonnait à des confidences un peu bizarres sur sa relation, par exemple, Julie Gayet, en disant elle veut officialiser, moi je ne veux pas trop. Mais aussi sur des sujets beaucoup plus importants qui regardent tout le monde. Par exemple, l'islam. Dans ce livre, il confie qu'il y a effectivement un problème avec l'islam, alors que dans son discours public, il insiste sur le fait qu'absolument pas, le problème est justement exclusivement avec les très peu terroristes.
Il y a une chose particulière après la déclaration d'hier soir, quand même, un président de la République qui renonce au pouvoir. Ça n'est pas rien avec tout ce qu'on peut trouver à François Hollande. Vous, quel regard vous avez là-dessus? Un politique qui renonce au pouvoir.
Oui, c'est un peu comme Sarkozy. Il réussit très bien ses adieux. Et je trouve que Hollande, hier soir aussi, elle a été très digne. Et elle a été très même émouvant, parce qu'on le voyait lui-même ému, je crois. L'instant même où il est paru devant les caméras, Il avait un visage très tendu. Il était. On avait l'impression qu'on allait assister effectivement à un moment historique et il a été parce que c'est la première fois qu'un président en charge abandonne
l'Élysée.
L'Élysée, oui.
Dans un deuxième mandat en tout cas.
Oui, un deuxième mandat en tout cas. Et après, il y a eu aussi ces quelques minutes de confusion parce que finalement, il continuait à parler de son bilan.
Et on se demandait s'il allait dire positive. Candidat ou pas.
Bon, alors peut-être il va. Mais non, finalement, il a parlé de lucidité. Et au moment où il a évoqué sa propre lucidité, c'était clair que si on a de la lucidité, on ne peut pas se présenter dans ces conditions-là.
Stefano Montefiori, est-ce qu'il faut faire un lien entre Sarkozy chassé du pouvoir, Hollande qui renonce, et ce qui va se passer dimanche chez vous en Italie, ce référendum avec un Premier ministre qui est très en danger? Vous faites un lien entre tout ça, vous?
Oui, forcément. Après, on ne sait pas quel sera le résultat du référendum de dimanche. Donc, peut-être, et là, encore une fois, les sondages ne sont pas univoques. Donc, on ne sait vraiment pas. Peut-être Renzi va rester au pouvoir parce que va gagner. Mais de toute façon, on a l'impression que les élites, forcément, sont très mises en discussion. Et même Renzi, qui jusqu'aux élections européennes de 2014, jouissait en Italie d'une popularité énorme. Après quelques mois, il est tombé dans la popularité, dans les sondages, et là, il est très en difficulté. Donc, on verra dimanche, mais c'est vrai que lui aussi, il a fait un peu peut-être l'erreur de lier son propre destin politique à un référendum. Donc, finalement, les gens ne votent plus pour la Constitution, oui ou non.
Ils votent contre Renzi. On va rappeler les enjeux de ce référendum avec la correspondante de France Inter à Rome, Mathilde Imberti.
L'enjeu des dernières heures de campagne pour Matteo Renzi, dépersonnaliser le scrutin. Il reconnaît avoir commis une erreur en focalisant les débats sur sa personne et s'attache désormais à promouvoir le contenu de la réforme. Une matière technique, les Italiens doivent se prononcer sur la fin du bicaméralisme parfait, la fin du Sénat tel que l'avaient conçu les pères constituants après-guerre et après le fascisme. Si la réforme passe, le Sénat ne vote plus la confiance au gouvernement, il devient une chambre des régions et le nombre de sénateurs est divisé par 3. L'Italie sera plus stable, estime Matteo Renzi, et fera des économies de l'ordre de 500 millions d'euros. Quand les partisans du non parlent de 10 fois moins d'économies et d'un risque de dérive autoritaire. Matteo Renzi fait étape pour le dernier jour de campagne en Sicile et en Calabre, dans ce Mezzogiorno qui devrait pencher de manière plus prononcée pour le non. Après 2 ans et demi de gouvernement Renzi, le chômage baisse légèrement en Italie mais reste plus élevé dans le sud et à 37% chez les jeunes qui eux aussi pourraient bien décider de rejeter cette réforme et son promoteur avec. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Stefano Montefiori, le destin de Renzi ce week-end, ça pourrait être l'antisystème pris à son propre jeu. Lui, il a toujours joué les antisystèmes et maintenant c'est lui le système.
Oui, parce que justement le parti du non est représenté surtout par le mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, qui est encore plus antisystème que Renzi. Donc il y a une concurrence des forces antisystèmes et c'est un peu le risque. En Italie, en ce moment, il n'y a pas une vraie droite reconstituée, forte.
Depuis le départ de Berlusconi.
Voilà, comme on l'a pu voir en France, les primaires de la droite en France ont vraiment vu une renaissance de la droite. En Italie, la droite est encore très en difficulté. Elle doit se réformer après... elle doit réinventer un poste Berlusconi.
Remplir un vide, en fait.
Voilà. Ouais. Et donc, l'espace politique est occupé par le mouvement 5 étoiles, qu'on accuse d'être démagogique, populiste. Ouais. Donc, c'est vraiment un référendum avec potentiellement des conséquences énormes pour l'Italie et pour l'Europe.
Merci Stefano Montefiori d'être venu dans le studio de France Inter. Allez, pour clore cette longue page politique, les discours d'au revoir, d'adieu, de renonciation, c'est un classique de l'histoire politique en France. En voici quelques-uns, très récents ou plus anciens. Montage réalisé par Sébastien Donat.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après
avoir longuement réfléchi et consulté. Je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Au revoir.
Voilà, vous aurez sans doute reconnu François Hollande hier soir, Nicolas Sarkozy il y a moins de deux semaines, Lionel Jospin le 21 avril 2002, Jacques Delors en 1994, les derniers vœux de François Mitterrand et l'au revoir de Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes entre les revoirs, les au revoir, les adieux et les renoncements.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Dans l'actualité en France encore, cette question, comment un lycéen en arrive-t-il à en tuer un autre à coups de couteau? Question incroyablement violente. Au lendemain de la mort d'un adolescent de 16 ans devant le lycée Poinceau-Chapuis à Marseille, Olivier Martoc est retourné ce matin devant l'établissement. Le récit de trois camarades du lycéen permet de comprendre comment s'est noué le drame. Pas une question de drogue, pas une question de fille, non. Juste un différend qui tourne terriblement mal.
Devant la porte du lycée, ils sont trois qui acceptent de parler aux journalistes. Ils donnent des prénoms, Ahmed, Tony, Romain, affirment qu'ils sont dans la classe des deux élèves impliqués dans le drame, dont l'origine serait une bataille de pommes de pin.
En fait, la semaine dernière, il y a Julien qui a reçu des pommes de pin dans la tête. La prof a mis un rapport aux deux. Julien, il n'a pas plu. Ils se sont dit, ouais, on va se battre. Ils se sont battus, Julien et l'autre de sa classe. Julien, il a gagné la bagarre. L'autre, il n'a pas voulu rester sur sa défaite. Il a dit, la semaine prochaine, je te ramène deux collègues à moi.
Sur la bagarre à la sortie du lycée hier soir, la version de ces adolescents colle avec celle de la police.
Ils l'ont frappé à trois. Ça s'est calmé un moment. Ils l'ont refrappé. Il s'est relevé. Il a sur un élan de 10 mètres. Il a mis un coup de couteau dans la gorge.
À mon avis, c'est le truc de se faire frapper devant sa mère, à mon avis. Ça voulait le prendre à trois, il a voulu dire ouais, je paye une dinde ou quoi. Il a pris le couteau et il a planté. Mais je sais pas pourquoi dans la carotide, parce que dans la carotide, c'est mortel quand même.
Sur les conséquences de ce geste, enfin, ils sont unanimes.
Les deux mères, les deux familles se sont brisées. Ça mérite pas ça. Les deux en vrai, ils ont perdu leur fils. Si ça arrivait à ma famille, ça, je m'en remettrai jamais en vrai. Même pour Julien, il doit regretter là maintenant, parce qu'il a fait ça sous le coup des nerfs.
Ce drame n'est pas révélateur d'une quelconque violence dans cet établissement. C'est juste une bagarre d'adolescents pour un prétexte futile qui bascule sur le fait divers horrible. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
La mauvaise nouvelle du matin pour la filière avicole, volaille, foie gras. La découverte d'un foyer de grippe aviaire dans le Tarn, dans une exploitation de la commune d'Almérac. Le musée d'Orsay a 30 ans, la date exacte, c'était il y a une quinzaine de jours, mais la fête, c'est ce week-end. Pour célébrer le trentenaire, tout le week-end, en effet, auront lieu des spectacles gratuits et la carte blanche a été donnée à un chorégraphe, José Montalvo. Les sculptures et les peintures vont s'animer sous la grande nef du musée d'Orsay. Jacqueline Pétrose.
Sous la grande verrière, au pied des statues et des tableaux, les danseurs vont apporter un enchantement supplémentaire. Poésie et mouvement, José Montalvo a imaginé 8 performances, moments d'émotion, s'appropriant poses et situations corporelles des peintures et des sculptures, et particulièrement sous la danse de Carpo, avec des modèles des Beaux-Arts.
Pouvoir danser en résonance avec elle, s'approprier la corporalité, la sensualité aussi, l'extrême sensualité, parce que c'est ce qui avait choqué, c'est cette idée de... aussi de liberté des corps qu'évoque la danse, pouvoir se l'approprier. Donc c'est tout prêt. C'était pour moi un cadeau, un défi. C'est vraiment une fête et j'espère que les personnes qui viendront éprouveront cette vibration, cette palpitation de la chair que les corps transmettent aussi.
Musique moderne et musiciens orientaux aux instruments pleins d'accords envoûtants vont révéler avec la vingtaine de danseurs toute la volupté et l'énergie du marbre et du bronze. José Montalvo.
Il y a une sensualité des sculptures et des peintures qui est extrêmement enivrant.
Alors c'est la danse se fait très d'union entre la représentation des corps au XIXe siècle et aujourd'hui.
Voilà, et les spectacles au musée d'Orsay à Paris seront gratuits tout ce week-end. 3 représentations ce soir à partir de 19h, puis dimanche après-midi. Et demain soir, samedi, bal du Second Empire. Malheureusement, c'est complet. Un tout dernier mot pour vous conseiller de composer un numéro ce week-end. 36-37, numéro du Téléthon qui commence ce soir. C'est la fin de ce journal.